Léa est une jeune étudiante française qui a osé sortir de sa zone de confort pour partir étudier aux États-Unis dans le but d'apprendre l'anglais. Ce qui rend son histoire d'autant plus fascinante, c'est qu'au départ, Léa avait un niveau d'anglais très faible.
Elle nous racontera en détail les démarches qu'elle a entreprises pour réaliser ses objectifs audacieux. Des préparatifs essentiels avant de s'envoler aux obstacles qu'elle a rencontrés sur son chemin, elle nous dévoile les coulisses de cette longue préparation. Elle parlera aussi de la préparation minutieuse nécessaire avant de s'envoler, du choix de l'université à la recherche de logement, en passant par les démarches pour obtenir un visa étudiant.
Léa nous dévoilera les défis qu'elle a rencontrés dès son arrivée aux États-Unis, de la barrière linguistique aux différences culturelles, en passant par l'adaptation à un nouveau système éducatif. Chaque étape a été un véritable test de sa détermination.
Donc, j'étais convaincue que c'était en étant dans un pays anglophone, immergé, c'était ma seule solution de débloquer un peu le truc et de progresser un peu. Je suis pas partie en disant que j'allais devenir bilingue parce que le gap il était trop important. C'était ma seule solution pour au moins progresser, être plus à l'aise. Et dans tous les cas, on se rend très vite compte, notamment lorsqu'on commence des études, qu'on recherche des stages ou des choses comme ça, que de toute façon, à chaque fois, ce qui nous est demandé, c'est de parler anglais. Je m'appelle Léa Debord et je suis partie aux États-Unis dans le cadre de mes études pour réaliser mon Master 1. Je faisais une école de commerce. On pouvait partir à l'étranger 6 mois, soit 1 an. Donc moi, j'ai fait le choix de partir 1 an à l'étranger et de m'expatrier dans un autre pays. Je suis partie dans l'Oregon, à l'ouest des États-Unis. J'étais dans une toute petite ville qui s'appelle La Grande, à l'université Eastern Oregon University. J'ai choisi les États-Unis parce que j'avais des difficultés en anglais. J'avais vraiment la volonté d'améliorer mon niveau. La solution, c'était vraiment de partir dans un pays anglophone, être immergé dans la culture, dans la langue, pour réussir à progresser. Donc c'est pour ça que j'ai cherché un pays anglophone. Et dans les pays anglophones, souvent les attentes en termes de niveau sont assez élevées, puisqu'on doit passer des examens de langue avant de choisir nos destinations. Et en fonction de ces résultats, on peut ou non accéder à des destinations. Et en réalité, dans les pays anglophones, il faut généralement avoir un très bon niveau d'anglais pour y accéder, excepté, moi j'avais une université aux États-Unis qui acceptait un niveau assez faible d'anglais. Et donc du coup, je me suis dit, bon ben c'est là que je vais essayer d'aller pour revenir et avoir progressé. Dès notre année de licence 3, ils nous ont présenté globalement le programme, donc au début du programme, une année avant. Ils nous ont notamment dit qu'il y avait cet échange et qu'il y avait des tests à passer de langue, donc l'IELTS, et que pour cela, on allait devoir passer le test. Il me semble qu'on l'a passé, donc il y avait plusieurs dates de proposer, mais ça devait commencer aux alentours de novembre, décembre, les premières dates, jusqu'à peut-être janvier. Donc ça arrivait très tôt au final, donc déjà sur ces premiers mois de l'année scolaire, si on a envie de se préparer un petit peu, essayer d'avoir des bonnes notes, on le prépare, donc c'était à préparer nous en autonomie, il n'y avait pas de cours qui étaient dédiés à ça. Et très vite en fait les examens de langue sont arrivés. Donc les examens de langue, ils ont permis de déterminer notre niveau et de nous après on avait une liste de toutes les universités partenaires de l'école et du niveau qui était accepté, le niveau minimum. Sachant que derrière, ce qui avait également été évoqué, c'était que on allait choisir notre destination en fonction de notre classement, de la promotion. Donc au final, ça a vraiment été quelque chose à prendre. Enfin, moi, je l'ai pris au sérieux sur toute l'année de licence 3. Je l'ai vraiment pris au sérieux pour ma part. Et tant sur du coup toutes les autres matières de licence 3 que sur l'anglais, j'ai essayé de vraiment m'investir pour premièrement être bien classée dans ma promo et me laisser l'opportunité de réussir à avoir une destination qui me plaise et où je pouvais atteindre mes objectifs. J'étais très bien placée dans ma promo et j'ai eu juste ce qu'il fallait pour prétendre à la destination qui était la plus basse, enfin où les attentes en anglais étaient les plus bas. Je crois que l'IELTS, je sais plus exactement sur combien c'est noté, peut-être 10, je sais plus exactement, je veux pas dire de bêtises. En gros, moi j'avais 5. Ça correspond vraiment à un niveau vraiment pas très bon et voilà, je l'ai eu de justesse. Une fois qu'on a eu nos résultats, je dirais peut-être mars, on a dû se positionner sur les destinations. Et en effet, après commence tout un tas de démarches. Il va falloir forcément qu'on ait soit des cartes d'identité, soit des passeports en fonction des endroits où on veut aller. Après, initier toutes les démarches de visa. Donc c'est en effet un visa étudiant qui permet d'étudier là-bas. On n'a pas possibilité de travailler en parallèle. Pour obtenir le visa, il faut savoir que c'est une démarche qui est payante. Il y en a presque peut-être pour 200 € de visa. Il faut savoir que pour l'obtenir, il faut se déplacer à Paris à l'ambassade. C'est pas parce qu'on fait la demande qui va être acceptée. On se rend à l'ambassade, on a un rendez-vous une journée, donc c'est pareil, on n'a pas le choix. Il faut se rendre disponible, aller à Paris et on a un entretien avec une personne en anglais qui va nous poser des questions en gros c'est sur nos intentions de pourquoi on s'y rend, parce qu'en fait il limite beaucoup l'immigration, donc c'est pour ça qu'il y a ce filtrage entre guillemets pour être sûr que les personnes qui partent là-bas elles partent pas pour y rester définitivement entre guillemets ou des choses comme ça. C'est très encadré en fait. Il faut s'inscrire auprès de l'ambassade française aux États-Unis, se répertorier parce que ils nous communiquent les infos, notamment s'il y a des problèmes, si on a besoin de démarches là-bas. En tant qu'expatrié, c'est bien de, en fait, faut dire où on est. Et comme ça, si un jour il y a un problème dans le monde, comme en plus moi j'ai eu le cas, ils savent qui est où, comment rapatrier les gens, comment trouver des solutions. Donc voilà, il fallait s'inscrire sur ça. Donc ça, il me semble que c'était gratuit. Moi, j'avais aussi lancé une démarche pour avoir un permis international. Donc ça, c'est une démarche qui est assez longue aussi. Donc je l'ai initiée dès que je l'ai su aussi. Pareil, il y a plein de petites choses bêtes, mais pour un visa, il faut faire des photos d'identité. C'est pas du tout les mêmes photos d'identité qu'en France. Donc il faut trouver un endroit pour le faire. Il faut commencer à regarder les billets d'avion. Parce que plutôt on les prend et plutôt on peut faire des économies, parce que savoir que partir aux États-Unis c'est quand même un budget. L'avion ça coûte vraiment cher, surtout quand là moi j'ai clairement traversé toutes les États-Unis. C'est pas comme si c'était New York et que c'est proche de la France, on peut avoir des tarifs qui sont accessibles. Là c'est quand même loin. J'allais dans une toute petite ville, donc ça voulait pas dire simplement prendre un avion France-États-Unis. Ça veut dire que moi, il fallait que j'organise déjà le départ de chez moi, chez mes parents, jusqu'à Paris, prendre un vol long courrier jusqu'à Portland. Et après, de Portland, j'ai dû chercher comment me rendre à la petite ville, qui était bien à 8-10 heures de route en voiture, il me semble. Donc c'est quand même toute une logistique, faut se renseigner en amont sur ce côté-là, le côté comment on va y aller. Faut se renseigner sur l'hébergement, où est-ce qu'on va dormir. Donc moi dans mon cas ça a été, la solution elle a été un peu facilitée dans le sens où on avait, donc en fonction des universités à l'étranger, soit ils laissent l'opportunité de choisir un logement. Donc ça, nous, d'initier les démarches comme on le ferait en France, mais on est loin et voilà, faut réussir à trouver à distance. Soit, parfois, ils demandent à ce qu'on soit hébergé sur le campus. Et donc, moi, j'avais l'obligation d'être hébergé sur le campus. Pour le coup, c'est une solution qui était peut-être plus chère financièrement. Mais d'une part, j'avais pas le choix. Donc, c'était aussi à prendre en compte au départ dans la décision. Quand même, que à ce niveau-là, voilà, c'était un budget. Et par contre, ça m'a quand même facilité parce que trouver un logement, même trouver un logement en France, dans une nouvelle ville où on veut s'installer, c'est pas simple. Mais à l'étranger, ça l'est encore moins, dans un milieu qu'on connaît pas, dans une autre langue, le faire à distance, gérer tout ce qui est électricité, enfin, toutes ces choses-là, c'est des petites choses qui, on se rend pas compte, mais c'est quand même beaucoup de démarches. Donc ça, pour le coup, j'ai pas eu à le faire, mais ça a été plus cher. Après, il y a à réfléchir aussi à tout ce qui est téléphone, voir si j'avais un forfait qui prenait en charge l'étranger, ou voir pour basculer sur un autre opérateur. C'est plein de petites choses comme ça du quotidien qu'il faut préparer. Il faut, il demande aussi de faire des examens médicaux avant de partir. Donc j'ai dû faire des examens attestant que ça allait bien, que j'avais tel et tel examen qui ou tel vaccin qui avait été bien fait. Le fait de s'expatrier comme ça à l'étranger via les études, ça permet souvent d'avoir un accompagnement qui facilite le fait de partir à l'étranger, parce qu'on est bien accompagné tant par l'école dans laquelle on est à la base, qui propose le partenariat, qui a déjà des infos, qui nous met aussi en contact avec les anciens étudiants qui sont partis dans cette destination et qui peuvent un peu nous donner les bons plans concernant la destination, tous les petits points auxquels il faut penser, tous les feedbacks qu'ils peuvent nous faire. Et aussi, après, en plus, on est mis en relation avec l'université là-bas. Donc, il va nous transmettre les documents avec une liste des documents dont ils ont besoin. C'est vrai qu'on doit aussi envoyer des documents directement en anglais. Donc, parfois, il existe que ce soit fait par des traducteurs. Parfois, on arrive à trouver d'autres solutions. Mais ça peut être aussi un budget à rajouter. Alors, les premières semaines ont pas forcément été très faciles parce que... donc, il faut savoir que moi, je suis partie donc dans une université partenaire. Qu'en fonction des universités, il y a des quotas. Nous, notre école, elle peut envoyer... soit elle peut envoyer 1, 2, 3, 10 personnes, 15, 20. Voilà, donc on peut se retrouver à plusieurs Français à être expatriés dans la même université. Donc moi, c'était mon cas, on était une dizaine. Après, je m'étais vraiment mentalisée de mon côté à... Ben voilà, j'avais mon objectif et j'avais envie de l'atteindre. Donc mon objectif, c'était de pas rester forcément que entre Français, mais de m'ouvrir dès le début aux autres et d'essayer de sortir de ma zone de confort et de me dépasser et faire le nécessaire pour réussir à créer des liens avec les personnes sur place et progresser en anglais. Donc au départ, ça n'a pas été facile. Alors c'est vraiment la dynamique que j'ai eue dès le départ. Déjà, il y a le fait qu'on soit hébergé sur le campus dans des résidences. On était en colocation avec d'autres étudiants américains. Donc ça, ça permet déjà, c'est un premier point d'attaque et ça permet direct de se mettre dans le bain et on est obligé de parler la langue, même au-delà des cours, à la maison, on est obligé. Au sein de l'école, il y avait une association pour les internationaux. Donc nous, on était plusieurs Français, mais il y avait aussi des étudiants qui venaient d'ailleurs, Argentine, Brésil, Angleterre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vu qu'au niveau du sport, c'est assez réputé, et ben souvent, il y a des étudiants qui, notamment via le sport, viennent dans les universités pour pratiquer leur sport, et notamment des étudiants internationaux. Donc très vite, on a été mis en relation avec eux, et ça a permis directement d'être pareil en interaction avec des personnes où on était obligé de parler anglais. Ce qui était bien, c'est que c'était des personnes qui étaient aussi passées par là où nous on passait, ou du moins moi je passais, parce qu'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus à l'aise, mais qui avaient aussi connu un peu ces difficultés. Donc au départ, on avait un peu de difficulté à échanger, à se faire comprendre. Les discussions, on essayait de discuter ensemble, il y avait de la bonne volonté, mais voilà, c'était un petit peu archaïque. Et au fil du temps, ça se débloque et il y a vraiment de plus en plus de facilité à échanger. C'est totalement différent d'une approche française où on apprend une langue. En fait, là, on est dans un pays et jamais j'ai eu un cours d'anglais. C'est vrai que ça fait aussi partie des points où il faut anticiper avant d'y aller. On doit notamment choisir nos matières, etc. Bon, c'est très encadré parce qu'il faut répondre à avoir des matières de telle thématique pour pouvoir valider notre master à la fin de l'année. Et donc, en fait, c'est le fait d'être immergé dans tout ça, dans les cours, et beaucoup quand même avec les autres étudiants avec lesquels on échange, que l'on progresse. Aux États-Unis, ils sont très ouverts, avec une volonté de toujours bien faire, nous aider. Et très vite, ils nous ont proposé, si on avait besoin d'aide, de pas hésiter à les solliciter. Ils nous ont demandé, si vous voulez, on peut... Enfin, moi, ils m'avaient proposé de me... Parfois, un petit peu me reprendre, me corriger, lorsque mes phrases, ça allait pas, ou me dire une expression et m'expliquer dans quel contexte on la disait. Déjà, rien que pour qu'on arrive à se comprendre, que je comprenne ce qu'il me disait. Et aussi pour moi, m'aider et assimiler de nouvelles choses. Et donc, en fait, c'est tous ces échanges-là et le fait d'être confronté à tout cet environnement, ces discussions, ces expressions qui reviennent au quotidien, qui fait que en fait on apprend, et un peu par mimétisme au final, on retient que c'est plutôt telle tournure de phrase, et ça devient des automatismes sans s'en rendre compte. Je dirais que c'est plus sur le long terme. Il y a des gens qui disent, quand on part comme ça dans un pays immergé, qu'on passe totalement dans une autre langue, une autre culture, on se met à rêver de la langue la nuit et tout. Bon, ça, moi, je l'ai toujours attendu, ça c'est jamais arrivé. C'était vraiment tout au long de l'année où je me suis vraiment rendu compte qu'au fur et à mesure ça allait mieux. Et puis je sais que moi, je m'étais fait une note sur mon téléphone, par exemple, où dès que on me disait dans une discussion, on me disait un mot, je le comprenais pas, et je demandais mais qu'est-ce que ça veut dire, et la personne elle m'expliquait différemment avec d'autres mots, et ça me permettait de comprendre le contexte dans lequel l'utiliser, ce que ça voulait dire, et je me notais toujours tel mot, en gros qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, du coup, après, ça rentrait aussi grâce à ça au fur et à mesure du temps. Les personnes avec qui j'étais m'avaient beaucoup demandé quel est ton meilleur souvenir. Je disais, il n'y a pas un souvenir mieux que les autres. Je dirais que, en fait, c'est mon expérience globalement qui a été géniale. Et si elle a été géniale, c'est grâce aux gens que j'ai rencontrés là-bas, des amitiés que je me suis liées, tout ce qu'on a partagé ensemble, toutes les petites choses qu'on a fait qui ont fait que vraiment c'était ouf, ça m'a appris plein de trucs, c'était vraiment, c'était génial, il n'y a pas d'autre mot, enfin, j'ai vraiment passé une très belle année, et c'est vrai qu'au retour, ça a été un peu compliqué de me remettre dans le bain, d'avoir quitté tout ça. Mais j'ai vécu plein de trucs cool. Enfin, c'est ce qui était génial, c'était la manière dont les gens, ils avaient envie de partager, et partager tout, et voilà. Non, franchement, c'était top.